Anne Pritcher prit le siège qu'on lui désignait. En audience privée, le mulet ne s'embarrassait pas de protocole. Pas de révérence, pas de génuflexion pour ses visiteurs. Le mulet était simplement le premier citoyen. Pour s'adresser à lui, on employait le mot « monsieur ». On s'asseyait en sa présence et le cas échéant, on pouvait même lui tourner le dos. Aux yeux de Anne Pritcher, c'était là le signe d'un homme assuré de sa puissance. Cette procédure lui procurait une chaleureuse satisfaction. « Votre rapport final m'est parvenu hier, » dit le mulet. « Je ne puis nier que je l'ai trouvé quelque peu déprimant, Pritcher. » Le général fronça les sourcils.
« Oui, je l'imagine aisément. Mais je ne vois guère à quelle autre conclusion j'aurais pu parvenir en l'occurrence. Il n'y a pas de seconde fondation, monsieur. Elle n'existe pas, tout simplement. Les faits sont là. »
Le mulet réfléchit et hocha la tête d'un geste lent. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois. « Vous oubliez le témoignage des Bling-Miss ? Que faites-vous du témoignage des Bling-Miss ? » L'argument n'avait, lui non plus, rien de nouveau. Avec beaucoup de franchise, Pritcher rétorqua.
« Il se peut que Miss ait été le plus grand psychologue de la Fondation, mais ce n'était qu'un enfant comparé à Harry Seldon. » À l'époque où il analysait les travaux de Seldon, il était soumis à la stimulation artificielle de votre propre cerveau. Il se peut que vous l'ayez poussé trop loin. Il est possible qu'il se soit trompé, monsieur. En fait, c'est très probablement ce qui a dû se passer. Il s'est trompé.
Le mulet soupira, l'air lugubre, le cou tendu. On eût dit, à la voir, que cette fragile brindille de chair était prête à se rompre.
Si seulement il avait vécu une minute de plus. Il était sur le point de me dire où se trouvait la seconde fondation. Il le savait. Je vous dis qu'il le savait. Je n'aurais pas été contraint de battre en retraite ainsi. Je n'aurais pas été contraint d'attendre comme cela. D'attendre, encore et toujours. Que de temps perdu. 5 années gaspillées pour rien.
Pritcher n'aurait pu taxer de faiblesse le dépit somme toute puéril manifesté par son chef. Le contrôle mental permanent dont il faisait l'objet le lui interdisait formellement. Au lieu de cela, il se sentait vaguement mal à l'aise, un peu troublé.
« Quelle autre explication pourrait-on proposer, monsieur ? »
demanda-t-il.
« J'ai effectué 5 explorations. Vous en avez établi vous-même les itinéraires. Je n'ai négligé aucune planète. J'ai exploré jusqu'au moindre astéroïde. 300 ans se sont écoulés depuis que Harry Seldon a prétendument établi 2 fondations qui devaient servir de noyau à un nouvel empire et remplacer celui qui agonisait alors.
100 ans après la mort de Seldon, la première fondation s'était fait connaître à travers toute la périphérie. 150 ans après Seldon, à l'époque de la dernière bataille contre le vieil empire, elle était connue de toute la galaxie.
Aujourd'hui, après 300 ans, où pourrait donc bien se trouver cette mystérieuse seconde fondation? Personne nulle part n'en a jamais entendu parler.
Si j'en crois Ebling Miss, elle garde jalousement le secret de son existence. Ce n'est que par le secret qu'elle peut espérer convertir sa faiblesse en force.
Lorsqu'un secret reste secret aussi longtemps, il y a fort à parier que c'est parce qu'il n'existe pas et n'a jamais existé. Voilà mon avis.
Soudain méfiant, le mulet leva la tête et fixa avec insistance, de ses grands yeux marrons, son interlocuteur.
Non. Cette fondation existe réellement.
Il tendit alors résolument un index décharné en direction du général.
Nous allons devoir réviser légèrement notre tactique.
Auriez-vous l'intention de mener l'enquête en personne ?
Demanda Preacher en fronçant les sourcils.
C'est là une décision que je me garderai fort de vous conseiller.
Non, bien sûr que non. Je vais confier une nouvelle expédition. Ce sera la dernière. Mais cette fois-ci, vous partagerez le commandement avec quelqu'un d'autre.
Après un court silence, Preacher reprit d'un ton nettement plus cassant.
« Qui cela, monsieur ?»«
Il y a ici, sur Kalgan, un jeune homme, un certain Bail Chanis. »«
Je n'ai jamais entendu parler de lui. » »«
Cela n'a rien d'étonnant. Mais il a l'esprit vif. Il est ambitieux. Et, surtout, il n'est pas converti. »
Un léger tremblement agita l'espace d'un instant la mâchoire puissante de Preacher.
« Je dois dire que je discerne assez mal l'avantage que lui confère une telle particularité. »«
Cet avantage existe cependant, n'en doutez pas. »« Vous êtes un homme expérimenté, Preacher. Vous ne manquez pas de ressources. Vous m'avez déjà rendu d'excellents services. » Mais vous êtes un converti. La loyauté que vous observez à mon égard vous a été imposée et échappe à votre libre arbitre. La perte de vos inclinations naturelles vous a privé d'un agent moteur subtil qu'il m'est impossible de remplacer.
Ce n'est pourtant pas mon impression,
rétorqua Preacher d'un air farouche.
Je me souviens parfaitement de l'époque où j'étais votre ennemi. Et je ne me sens nullement diminué par rapport à ce que j'étais alors.
« Naturellement, » dit le mulet en grimaçant un sourire. « Mais votre jugement en la matière manque, par la force des choses, d'objectivité, vous en conviendrez. »
« Chanis, lui, a quelque chose que vous n'avez plus. Il a de l'ambition personnelle.
On peut lui faire entièrement confiance. Ce n'est pas une question de loyauté, mais d'intérêt personnel. Il sait parfaitement que nous sommes, lui et moi, dans le même bateau, le mien en l'occurrence, et il est prêt à tout pour augmenter mon pouvoir, afin que la traversée dure le plus longtemps possible et que la destination soit la plus glorieuse possible. S'il vous accompagne, c'est simplement pour que nous puissions tirer parti de ce mobile supplémentaire que vous ne possédez pas. Cet aiguillon qui vous fait défaut. L'intérêt personnel.
Dans ce cas,
insista Preacher qui s'obstinait à ne pas lâcher prise,
pourquoi ne pas me libérer de ma conversion si je dois en être amélioré? Je doute qu'on puisse à présent se méfier de moi.
Cela jamais,
Preacher.
Tant que vous demeurerez à portée de moi, ou que vous aurez la possibilité de me détruire, vous resterez sous l'effet de la conversion. Si je prenais la décision de vous libérer en 7 minutes, je serais mort à la suivante.
Les narines du général se dilatèrent.
Cette méfiance me fait beaucoup de peine.
Je n'ai pas la moindre intention de vous blesser. Mais il vous est impossible de deviner quels seraient vos sentiments si je leur permettais de suivre le cours naturel de vos inclinations. L'esprit humain n'aime pas qu'on lui dicte sa conduite. C'est d'ailleurs bien pourquoi les hypnotiseurs humains ordinaires ne parviennent pas à hypnotiser un sujet contre sa volonté. Si moi j'en suis capable, c'est parce que je ne suis pas un hypnotiseur ordinaire.
Croyez-moi, Preacher, je n'aimerais guère affronter le ressentiment que vous pourriez montrer et dont vous ignorez même jusqu'à l'existence. »
Preacher courba la tête. Le sentiment de son impuissance lui déchirait l'âme et lui donnait une impression de vide et d'hébétude. Il dut se faire violence pour demander.
« Mais comment pouvez-vous faire entièrement confiance à cet homme, autant qu'à moi, qui suis un converti ?»«
Justement, je ne puis me reposer entièrement sur lui. C'est pourquoi vous l'accompagnerez. Voyez-vous, Preacher ?»
Le mulet s'enfonça profondément dans son vaste fauteuil, dont le dossier ample et moelleux lui donnait par contraste l'apparence d'un cure-dent perdu dans les replis d'un édredon.
S'il lui arrivait de tomber par hasard sur la seconde fondation, s'il lui arrivait de penser qu'un accord avec les membres de cette institution pourrait être plus profitable que de travailler à mon service. Vous me comprenez ?
Une lueur de satisfaction profonde brilla dans les yeux de Preacher.
J'aime mieux cela, monsieur.
Je vois que nous nous comprenons.
Mais surtout, n'oubliez pas. Il faut lui laisser carte blanche dans toute la mesure du possible.
Certainement.
Et, Preacher, le jeune homme en question est beau garçon, agréable et charmeur en diable. Ne vous laissez pas abuser. C'est un gaillard dangereux et sans scrupules. Ne vous mettez pas en travers de sa route, à moins que vous ne soyez préparé à le combattre à armes égales. C'est tout. Le mulet était seul de nouveau. Il laissa les lumières s'éteindre, et le mur qui se trouvait devant lui reprit sa transparence. Le ciel était pourpre à présent, et la cité n'était plus qu'une vague lueur qui barrait l'horizon. À quoi rimaient tous ces efforts? Est-ce qu'il devenait le maître suprême de toute la création? En serait-il plus avancé? Cela empêcherait-il des hommes comme Preacher de continuer à être de grands gaillards toujours prêts à aller de l'avant sans se poser de questions? Bail Chanis en perdrait-il sa prestance physique? Et lui-même, serait-il différent de ce qu'il était à présent? Il maudit ses doutes. Connaissait-il seulement lui-même son objectif final? Au-dessus de sa tête, le signal lumineux se remit à clignoter, froid et impersonnel. Il suivit alors la progression de l'homme qui avait pénétré dans le palais, et presque à son corps défendant, il sentit le flux émotionnel du visiteur envahir doucement les cellules de son cerveau. Il identifia sans effort le visiteur, c'était Chanis. Le mulet ne percevait chez lui aucune uniformité mentale, mais bien plutôt la diversité primitive d'un cerveau puissant, exempt de toute influence extérieure et de toute empreinte étrangère. Ses sentiments affluaient et refluaient à la manière de vagues sur un rivage. Une certaine prudence affleurait à la surface, apaisante comme l'huile sur les flots, avec, çà et là, une touche de cynisme inattendu soigneusement dissimulée au creux des vagues. Telle une lame de fond prête à tout emporter, un puissant courant d'intérêt personnel et d'amour-propre, matiné par endroits d'une pointe d'humour cruel, circulait en dessous. Enfin, il sentit que les couches abyssales de la conscience du jeune homme baignaient tout entière dans un flux étal d'ambition pure. Le mulet avait l'impression qu'il lui était possible de canaliser ce courant, lui imprimer une nouvelle direction, assécher tel ou tel torrent d'émotions ou au contraire en déchaîner un autre. Et après, s'il parvenait à courber la tête bouclée de Chanis et à lui inspirer la plus profonde des adorations,
Aurait-il en rien changé ce masque grotesque qui faisait de lui-même un vilain oiseau de nuit fuyant la lumière du soleil? Un reclus au sein d'un empire qui lui appartenait pourtant corps et âme? Derrière lui, la porte s'ouvrit, et il se retourna. Le mur reprit son opacité, et l'obscurité nocturne fit place à la blanche luminescence de l'énergie atomique.